Chapitre 11e. Histoire de la vieille. Je n'ai pas eu toujours les yeux éraillés, bordés d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton. Je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestine. On m'éleva jusqu'à 14 ans dans un palais auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie. Et une de mes robes valait mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects, des espérances. J'inspirais déjà de l'amour, ma gorge se formait, quelle gorge, blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis. Et quels yeux, quelles paupières, quels sourcils noirs, quelle flamme brillait dans mes deux prunelles, effaçait la scintillation des étoiles, comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient, qui me déshabillaient, tombant en extase en me regardant par devant et par derrière, et tous les hommes auraient voulu être à leur place. Je fais fiancer un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince aussi beau que moi, pétri de douceur et d'agrément, brillant d'esprit et brûlant d'amour. Je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. C'était une pompe, une magnificence inouïe. C'était des fêtes, des carousels, des opéras bouffas continuels. Et toute l'Italie fit pour moi des sonnets dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur, quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle. Il mourut en moins de 2 heures avec des convulsions épouvantables. Mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir, et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à ces jours si funestes. Elle avait une très belle terre auprès de Gaète. Nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'hôtel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde. Nos soldats se défendirent comme des soldats du pape. Ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes et en demandant au corsaire une absolution in articulo mortis. Aussitôt, on les dépouilla, nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'était une chose admirable que la diligence avec laquelle ces messieurs déshabillent le monde. Mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mirent à tous le doigt dans un endroit où, nous autres femmes, nous ne nous laissons mettre d'ordinaire que des canules. Cette cérémonie me paraissait bien étrange. Voilà comment on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. J'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants. C'était un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. Je sais que messieurs les religieux, chevaliers de Malte, n'y manquent jamais quand ils prennent des Turcs et des Turcs. C'est une loi du droit des gens à laquelle on n'a jamais dérogé. Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Vous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle. Nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre, avaient plus de charme qu'on en peut trouver dans toute l'Afrique. Pour moi, j'étais ravissante. J'étais la beauté, la grâce même. Et j'étais pucelle. Je ne le fus pas longtemps. Cette fleur qui avait été réservée pour le beau prince de Massa Carrara me fut ravie par le capitaine corsaire. C'était un nègre abominable, qui croyait encore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à Maroc. Mais, passons, ce sont des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Maroc nageait dans le sang quand nous arrivâmes. 50 fils de l'empereur Mulay et Ismaël avaient fait leur partie, ce qui produisait en effet 50 guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres. C'était un carnage continuel dans toute l'étendue de l'Empire. À peine fûmes-nous débarqués que des Noirs, d'une façon ennemie de celle de mon corsaire, se présentèrent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'il y avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat tel que vous n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septentrionaux n'ont pas le sang assez ardent, ils n'ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens avaient du lait dans les veines. C'est du vitriol, c'est du feu qui coule dans celle des habitants du Mont Atlas et des pays voisins. On combattait avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée, pour savoir à qui nous aurait. Amour saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche. Un soldat mort l'a pris par une jambe, un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque toutes en un moment tirées ainsi à quatre soldats. Mon capitaine me tenait caché derrière lui. Il avait le cimeter au poing et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin, je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, et enfin, mon capitaine, tout fut tué. Et je demeurais mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de 300 lieues. Sans, comme mon cas, aux 5 prières par jour ordonnées par Mahomet. Je ne me débarrassais avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés. Je me traînais sur un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin. J'y tombais d'effroi, de lassitude, d'horreur, de désespoir, de faim. Bientôt après, mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenait plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité entre la mort et la vie, quand je me sentis pressé de quelque chose qui s'agitait sur mon corps. J'ouvris les yeux. Je vis un homme blanc et de bonne mine, qui soupirait, qui disait entre ses dents: « Oh, que segura de celle et senza que... »